Voilà, en attendant, en bibliomanie, c'était Quincy Jones en 1964 à la composition, à l'arrangement et à la direction d'orchestre. Eh bien, bibliomanie maintenant.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Barry Marchand, avec à la technique Flo Descailloux. Et nous allons partir à la recherche de la dot bleue, de la dot, de la première dot qui vous fait écrire, qui vous fait voyager, qui vous inspire, avec Alain Warraud pour Cendrillon, c'est moi. C'est un recueil de nouvelles, on pourrait dire, qui vient de paraître aux éditions Unicité. Très belle couverture, je l'ai sous les yeux, Alain Warraud. Et Cendrillon, c'est moi. Alors, je vais un petit peu vous présenter avant qu'on rentre en discussion tous les deux. Donc vous êtes professeur de guitare classique au conservatoire départemental des Landes, d'après, voilà. Vous avez publié 5 ouvrages de poésie entre 2016 et 2019, dont une trilogie poétique, 4 saisons plus une, Lettres en vacances, À jour, ça c'est un très beau titre, puis Prélude et fugue, et Le jour opéra. Alors c'est vrai que Cendrillon, c'est moi, je vois, c'est un recueil donc en 5 portraits, on pourrait dire.
Tout à fait, oui. Ouais.
Alors moi j'ai pensé, bizarrement, j'ai pensé aux cordes, comme vous êtes guitariste, j'ai pensé aux 6 cordes. Bon, je sais que pour la guitare, il y en a 6 des cordes, je pense. Ou alors peut-être 5 pour la guitare basse. J'ai 4. Ah, bah alors, décidément, je n'y connais rien. Mais j'ai pensé en tous les cas à 5 partitions, 5 cordes, 5 nuances de Cendrillon. Cendrillon étant la figure un peu mythologique. Il y a 2 femmes hein, un peu mythiques dans ce recueil, à la Warraud. Il y a Cendrillon et il y a la mystérieuse.
Oui, on en parlera voilà. Peut-être.
Alors, et donc la couverture de votre livre, il y a 4 portraits de vous, dont 2 sont, qui vont de différentes couleurs, vous passez de l'obscur au clair, hein, on pourrait dire, et c'est vraiment 5 aussi, c'est des nuances de vous-même. Alors je voudrais connaître un peu comment l'histoire de ce recueil, comment est-il né dans votre tête? Est-ce qu'au départ vous avez écrit simplement une histoire, une nouvelle? Est-ce qu'après les nouvelles se sont regroupées? Comment c'est venu cette idée un peu de 5 visages en un seul?
Alors, bon, il n'y a pas eu au départ une idée, je ne me suis pas dit, je vais écrire 5 nouvelles ouais. dont le titre sera Cendrillon, ouais. c'est moi, et avec un schéma complètement construit. C'est venu petit à petit. Et en fin de compte, la première nouvelle, entre guillemets, qui a été écrite, c'est la dernière qui est présentée, c'est-à-dire La Mystérieuse.
Ah, ben voilà, je l'aime bien, La Mystérieuse.
c'est la dernière qui a été écrite, du moins achevée en premier. Et quasiment au même moment, j'étais également en train d'écrire la première nouvelle, qui était Cendrillon. Et c'était une idée comme ça qui m'était venue, à propos de Cendrillon. C'est un thème qui me tenait à cœur. Et voilà, mais ça, c'est l'écriture de Cendrillon, de cette première nouvelle, a un petit peu traîné, pour différentes raisons. Et donc, ça a été repris après. Donc, j'ai fini cette écriture de Cendrillon, et se sont enchaînées quasiment au même moment
oui.
les 3 autres nouvelles. C'est-à-dire qu'après, une fois que j'avais ça, c'est parti très vite.
Ah oui, donc voilà. il y avait deux jambes, on peut dire.
Enfin, deux jambes, voilà.
Et après, tout le corps est venu.
Tout le corps est venu, c'est-à-dire que c'est un petit peu ma façon de faire, c'est-à-dire que je rumine, je suis un ruminant, je rumine longuement les choses sans les écrire, et après, une fois que c'est quasiment architecturé dans ma tête, à ce moment-là, l'écriture, ça va rapidement.
Rapidement. Donc, il y a Cendrillon, Julien, qui, moi, c'est ma nouvelle préférée, Louise, Jean-François et la Mystérieuse. Masculin, féminin, féminin pluriel,
oui.
Féminin singulier, masculin singulier, masculin pluriel aussi. Alors on sent vraiment le musicien hein, dans votre écriture. C'est une écriture très très délicate, très. Est-ce que vous vous corrigez beaucoup ou est-ce là vraiment vous êtes une fois que vous avez bien ruiné votre sujet comme vous m'avez dit, vous partez
J'aime à dire que j'écris d'oreille en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que j'entends en fait. C'est-à-dire que j'écris comme un musicien qui compose sa partition. Alors l'aspect musical, oui bien sûr. Mais alors il y a l'aspect rythmique de la phrase, il y a l'aspect des sonorités, etc. Mais je crois que ça va. L'aspect musical, il va au-delà. Il va à la fois dans la construction du livre. Tout à l'heure, vous parliez des cinq portraits, et vous parliez ça de façon musicale. Les cinq cordes de guitare. Bon, les cinq cordes de guitare, ça m'est pas venu à l'esprit. Ouais. Mais c'est plutôt cinq mouvements, comme le
cinq mouvements
d'une symphonie qui en aurait cinq au lieu de quatre.
On peut parler d'un quintet.
Oui, aussi. Et alors, c'est donc tout ça, et c'est aussi une façon de penser, une façon de structurer la pensée, qui structure la phrase et qui structure le paragraphe ou le chapitre ou la nouvelle complètement. L'écriture musicale, c'est pas une langue, c'est pas un langage comme l'écriture, le livre, la parole, puisqu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens, il y a beaucoup de sens, mais il n'y a pas de sens au point de vue sémantique.
Vous avez dit d'ailleurs que c'est votre livre le plus bavard et le plus silencieux.
Oui, j'aime bien beaucoup, j'aime bien les paradoxes.
Oui, mais l'écriture est faite de paradoxes.
Voilà. Alors, oui, bavard et silencieux, parce que il traite du silence. D'ailleurs, un des titres auxquels j'avais pensé, c'était les mesures de silence.
Ah, c'est beau.
Voilà. Parce que effectivement, il y a beaucoup de questions de silence. Il y a beaucoup de questions de silence dans Cendrillon, mais dans toutes les nouvelles, de toute façon. Et c'était un peu une façon de dire ce qui se passe, tout ce qui peut se passer dans le silence, et qui est si important. Et la musique, c'est quelque chose qui naît du silence. Ça, c'est pas moi qui le dis. Je crois que c'est Vladimir Yankelevitch.
Ah, très fort, Yankelevitch.
Qui parlait de ça. Voilà pourquoi effectivement il y a ces notions de silence et de musique tout au long. Et puis bon, la musique, c'est la part essentielle de ma vie, de mon métier. Donc je ne peux pas y échapper. C'est même pas, je vais dire, je vais faire quelque chose de musical. C'est indissociable.
Et pourquoi la guitare, justement, puisque vous avez... Parce que, il y a le piano, la guitare, c'est un instrument d'accompagnement, on pourrait dire ça.
Alors,
comme ça.
C'est une longue histoire, mais je ne vais pas dire. La guitare, c'est tout à fait par hasard. Ouais. En fait, quand j'étais enfant, je rêvais d'être pianiste. Pour de multiples raisons, ça n'a pas pu se faire. Raisons matérielles, peu importe. Et donc, je faisais un peu de ce que je pouvais, de la flûte. Je me débrouillais par moi-même, flûte avec. Mais j'avais besoin d'un instrument qui soit comme le piano, c'est-à-dire un instrument harmonique, polyphonique.
Ouais.
Et à l'époque, jeune adolescent, j'écoutais du piano à longueur de journée, Chopin, Schumann, Beethoven, enfin tout le grand répertoire romantique qui fait encore la gloire des concerts d'aujourd'hui. Et naïvement, je m'étais dit que j'allais retrouver ce même répertoire à la guitare. Bien sûr, je ne l'ai pas retrouvé.
Ouais.
Mais plutôt que d'abandonner, de reculer, je me dis, je vais essayer de découvrir les trésors de cet instrument, ses possibilités expressives, qui sont complètement différentes de celles du piano, bien sûr. Et puis, bon, voilà, j'ai accroché. Mais mon but, c'était faire la musique. Voilà. Si je ne peux pas faire du piano, bien je fais ce que je pourrais.
Donc l'instrument à cordes. Et c'est vrai que... Alors on pourrait aussi parler dans votre recueil à la Waro de la cinquième saison, vous savez, hein, la cinquième saison. Et puis aussi de cette notion qui doit être musicale quand même, parce que moi je ne suis pas musicienne, de l'intervalle. Ce sont des intervalles de vie.
Oui, on peut appeler ça, oui. Comme ça.
Ce sont, dans la nouvelle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julien, un peu à la Simenon d'ailleurs, c'est une nouvelle vraiment d'acte de passage, c'est-à-dire vraiment un passage à vide, on pourrait même, oui, passage à vide justement dans sa vie, dans son quotidien, et je trouve qu'il y a l'intervalle qui est présente dans Cendrillon, c'est un peu, on pense à la métamorphose de l'adolescence, de la jeune fille à la femme.
Oui,
par exemple.
Oui, tout à fait.
Et puis après, progressivement, enfin, on sent qu'il y a de l'intervalle de l'être qui sort de sa chrysalide, de sa... Il va devenir... Et il y a un intervalle. Et à un moment donné, il n'est pas tout à fait cet état-là, il n'en est pas tout à fait un autre, mais il y a un petit moment charnière, le moment clé. On sent que c'est ça qui vaut. J'essaye, vous voyez, en vous parlant, de chercher
le moment du passage.
Le passage
d'un état à un autre, effectivement. Et qu'on retrouve dans les autres nouvelles, parce qu'il y a ce passage qui est dans la nouvelle de Jean-François.
Oui.
C'est vraiment nommé le passage. C'est le passage d'un état à un autre. Et si je fais référence dans cette nouvelle, encore la musique, à une fameuse sonate de Beethoven, qui est la sonate dite La Tempête. C'est une sonate qui date de l'époque du testament d'Heiligenstadt, quand Beethoven a éprouvé les premiers symptômes de la surdité et qu'il s'est décidé de s'écarter du monde parce qu'il n'était plus capable de vivre à l'intérieur avec les autres. C'est ce qui lui a donné toute cette apparence d'être un être bougon qui n'aime pas l'humanité, alors que c'est pour ces raisons-là qu'il voulait s'éloigner. Et pour lui, c'était une époque du passage. Et cette sonate, La Tempête, de mon point de vue, c'est maintenant, qu'est-ce que je vais écrire comme musique ? Il va falloir que je trouve quelque chose de nouveau.
Est-ce que lorsque vous avez écrit ces nouvelles, est-ce que vous jouiez est-ce qu'il y a un temps pour la musique et un temps pour l'écriture ?
Oui, il y a un temps pour les deux, qui sont séparés.
Ouais.
Je peux pas écrire en écoutant de la musique, sinon j'écoute la musique et j'écris. Je n'écris plus.
Et vous pouvez pas non plus parce que vous composez aussi, non ? Vous composez ?
Oui. Composer, c'est bien un grand mot. J'écris des petites bricoles comme ça, effectivement. Oui.
Ouais, vous écrivez de la musique,
oui,
on peut dire.
Oui, hein. Oui.
Donc c'est deux temps différents. Vous avez dit aussi, moi j'aime bien fouiller à droite et à gauche. Je crois que le propre des gens heureux est de restituer à l'autre la voix qui lui appartient. J'aime bien cette phrase, donc c'est pour ça que je veux...
Oui.
Est-ce que là, vous avez essayé de restituer la voix qui appartient, VOIE cette fois-ci, ou de VOX, la voix qui appartient à chacun de vos personnages ?
C'est le but très clair de Cendrillon, en tout cas.
Oui.
Cendrillon qui, au départ, son premier mot, c'est non.
Ah bah, c'est vraiment une libertaire, elle, hein, Cendrillon. Ouais.
Effectivement,
écoutez,
Après, va-t-elle réussir, justement ? Est-ce qu'il est possible, réellement, de dire non ? Est-ce qu'il est possible d'acquérir cette liberté ?
Regardez ce que vous écrivez. Le premier mot qu'elle prononça, contrairement à tous les enfants, ou du moins à leur grande majorité, à l'image de ses sœurs, qui ont représenté l'expression la plus parfaite, ressemblait à ces trois lettres, non. Donc c'est une réfractaire, Cendrillon.
C'est une réfractaire. Dès le départ. Et puis après, elle va faire comme tout le monde, elle va prendre ce qu'on lui donne pour argent comptant, pour une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Et en grandissant, malgré tout, elle va retrouver ce fameux nom, et elle ne va pas accepter la situation qu'on lui propose.
Ou plutôt, c'est en disant oui à elle-même qu'elle refuse...
On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça.
Dire oui à soi-même pour dire non à ce qu'on vous impose.
Oui, voilà.
Peut-être.
C'est le résultat.
La naissance à soi-même.
La naissance à soi-même.
Ouais.
Mais ça commence par non.
Enfin, oui,
de mon point de vue, ça commence par un refus.
Alors pourquoi Cendrillon ? Parce que c'est vrai, il y a dans les contes de fées, il y a Podane, par exemple. On la confond des fois un petit peu, mais Cendrillon, c'est la pantoufle de verre.
Oui.
C'est les coups de minuit. Enfin, moi, dans mon souvenir d'enfant, c'est la transformation, là aussi, la métamorphose. C'est quand même l'heure, il y a quelques heures où elle est... qui lui sont offerts.
Oui, mais Cendrillon, c'est la personne qui veut, qui a besoin et qui a le droit d'échapper à son destin. Dans ce sens-là que je l'ai pris. Et d'ailleurs, Cendrillon, c'est un mythe qui ne date pas de Perrault ni de Grimm, mais bien avant, il y a eu des multiples Cendrillons, et dans d'autres cultures également, en Asie, très anciennes, et des Cendrillons qui ne sont pas tout aussi... gentille, on va dire, que la Cendrillon de Perrault ou celle de, n'en parlons pas, de Walt Disney plus tard.
Oui.
La Cendrillon d'un auteur italien qui a eu un petit peu avant Perrault, c'est quand même une Cendrillon qui a assassiné sa belle-mère.
Elle est totalement
voilà, donc là,
rebelle.
Rebelle.
Elle a du répondant.
Voilà, exactement.
Elle a du répondant. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté dans ce personnage de Cendrillon? Plus exactement, qu'est-ce qui vous a...
C'est vraiment donc cette volonté de ne pas suivre son destin.
Oui.
C'est ce qui se passe dans la Cendrillon de Perrault, puisqu'elle arrive par de la cendre, du foyer où elle est.
Est-ce que c'est la cendre, justement?
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. On part de la cendre, c'est-à-dire se consumer, cet endroit sale, cet endroit qui n'est pas fait pour vivre, et qui l'amène au prince charmant. Mais moi, je me suis dit que c'est pas possible. Elle ne pouvait pas accepter l'idée du prince charmant. Parce que le prince charmant, c'était quoi? C'était finalement se soumettre à nouveau à autre chose. Voilà. Alors, ce n'est pas un discours féministe que j'ai voulu tenter, bien sûr. Mais c'est dans cette idée-là. Donc, Cendrillon, elle va finalement refuser aussi le destin qu'on lui a promis.
Oui, c'est...
Enfin, elle va essayer
de
refuser ce destin-là.
Elle le refuse. Alors, il y a une phrase, le silence est comme l'ébauche de 1000 métamorphoses, et d'Yves Bonnefoy. Parce qu'à chaque fois, chaque nouvelle, chaque portrait, parce que ce sont aussi des portraits, ce sont des nouvelles, est annoncée par une phrase, par un vers d'écrivain. Le silence est comme l'ébauche de 1000 métamorphoses. Et on est dans la métamorphose, parce que Cendrillon, c'est... on sent qu'elle, c'est une réfractaire, elle a ses sœurs, c'est très important, cette notion.
C'est très important, c'est deux sœurs qui sont différentes d'elle, qui sont plus âgées, et deux sœurs qui, enfin moi je les ai construites comme ça, qui sont également différentes de caractère et de comportement, ce qui ne nous empêche pas de s'entendre à merveille.
Elle était redevable envers ceux qui étaient là avant elle. Le temps l'avait décidé ainsi. Le temps lui avait assigné une place qu'il était impossible de contester. Elle ne possédait aucune valeur devant ce temps, et comme rien ne viendrait après elle, il la tenait définitivement au premier rang. Elle n'était rien. Donc il y a aussi la notion...
Dernier rang,
excusez-moi. Elle n'était rien. Moi, je la mets au premier, vous voyez, c'est révélateur. Donc, il y a aussi cette notion de temps. On sent que c'est le... Et ce que j'ai aimé beaucoup, moi, c'est cette phrase. Cendrillon grandissait en silence, ce qui est en soi une autre forme de malentendu. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le fait de ne rire. Le fait que les êtres coexistent sans se voir et sans s'entendre.
Sans s'entendre. Ou sans dire. Et alors après, on imagine, mais on ne dit rien, mais on construit l'autre comme on a envie de le voir. Mais est-ce que ça correspond à ce contenu qu'il y a dans le silence? Parce qu'il y a toujours du contenu dans le silence.
Oui, c'est, parce qu'on pense, vos personnages, est-ce qu'ils sont chacun pas des paroliers du silence?
Oui, tout à fait. Mais
Est-ce que pour vous, écrire, c'est faire parler certains de vos silences?
Tout à fait. Tout à fait, c'est plus facile d'écrire. Enfin, pour moi, du moins,
oui.
C'est plus facile. Je me sens plus libre d'écrire que de parler. parler est une chose qui pour moi est plus difficile.
Oui, bah c'est un autre exercice.
Oui.
Un autre exercice. Bien vite, elle-même se laissa envahir par la force de l'évidence de ce qui existait autour d'elle et bien avant d'elle. Une lumière, un son, une parole, une chambre, un paysage, une idée, un ordre, autant de choses bien établies dont on ignore l'origine. Donc là, vous voyez, une lumière, un son, une parole, une chambre, un paysage. Progressivement, vous nous dessinez, très progressivement, son environnement sensoriel, son environnement du quotidien. Et ça, c'est le propre de votre écriture, à la Waro.
Oui, sans doute.
Mais il y a un rythme.
Il y a un rythme, au niveau du rythme. Oui, oui.
Je ne suis pas là pour vous faire...
c'était par rapport au niveau du sens.
Il y a une chose... Oui, il y a un rythme qui arrive.
Oui, oui, oui. C'est une façon aussi d'établir les choses progressivement. Je mets une pierre, et puis une autre, et puis une autre, et je construis au fur et à mesure. Voilà comment ça se passe. Donc ça se passe dans ma tête, bien sûr, et après ça part d'un bloc. C'est-à-dire que la symphonie est construite complètement dans ma tête, et après elle va sur le papier.
L'art de la nouvelle qui est très mal défendu en France, est-ce que vous êtes un lecteur de nouvelles? Est-ce que vous avez des admirations aussi française, d'auteurs français ou étrangers dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez eu des modèles aussi? Parce que quand on écrit, parfois, on a un petit modèle dans la tête, où on se dit, bah tiens, sans y penser, mais enfin, on a des idéaux, voilà.
J'évite les modèles. Des nouvelles, bon... Kafka a écrit beaucoup de nouvelles.
Alors, Kafka est très présent dans votre travail.
Et voilà, donc c'est sans doute peut-être une des auteurs qui m'a le plus marqué au niveau de l'écriture, même si on ne lit que des traductions. Et effectivement, c'est très présent, oui.
Vous avez écrit le monologue du voisin Kafka, c'est aux éditions Jacques Flamand.
Oui.
D'ailleurs, je citerai quelques petits morceaux à la fin de notre conversation. Et c'est vrai que là, c'est une seule nouvelle, par contre. Une seule nouvelle, sur la notion d'enfermement, je dirais, d'enfermement volontaire ou non. Enfin, c'est très... Alors que là, c'est cinq fenêtres sur cinq intervalles de vie. Je dirais que là, on respire un peu mieux dans Cendrillon, c'est moi.
Il n'y a pas ce sentiment d'étouffement qu'il y a.
Très kafkaïen.
Kafkaïen, voilà. Et c'est plus. Je ne dirais pas que c'est plus léger. C'est plus attendri. Il n'y a pas vraiment de légèreté dans Cendrillon, c'est moi.
Non.
Mais voilà, j'ai un regard. Soit amusé d'ailleurs, parfois, ironique, ou attendri. J'ai beaucoup de tendresse pour tous ces personnages, en fait.
Oui, vous les aimez tous, vous les accompagnez. Ils sont... Se trouvant prise entre deux infinis, le passé dont elle ne pouvait appréhender les limites et ce futur qui s'éloignait entre une ligne d'horizon au fur et à mesure qu'elle tentait de s'en approcher. Voilà. Donc c'est vraiment une sorte de dialogue spatio-temporel entre. Une vie, son environnement, les êtres qui l'entourent, les silences qui l'entourent, les paroles qu'elle peut dire accidentellement, et tout ça, ça forme un fragment d'histoire. On pourrait parler de fragmentaire.
Oui, ce sont tous des fragments, et ce sont ces fragments qui vont constituer en fait un ensemble que j'espère cohérent.
Rien ni personne ne l'obligeait, ne la menaçait. Elle était en mouvement dans le mouvement. Le prolongement d'un élan qui ne lui appartenait pas. Alors là, on pense encore à la musique, on pense à la première note dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les dés en sont jetés. On sent qu'il y a l'interrogation sur ce qu'on appelle avec des grands mots le destin, la destinée.
Absolument, mais je pense que c'est que tout le monde peut se retrouver là-dedans. Tout à l'heure, vous parliez de la description de ce qu'elle découvrait, la lumière, le son, la voix. Je n'ai pas utilisé ça par hasard, c'est-à-dire, je crois à peu près, hein, schématiquement, ce qu'on découvre en premier. commence par découvrir le son, on découvre la lumière, et puis après, le cercle s'élargit, on découvre les personnes qui sont autour de nous, le père, la mère, etc., les frères, sœurs, s'il y en a, et puis le mobilier, et puis la chambre, et puis voilà, c'est un cercle qui s'élargit progressivement. Et Cendrillon est l'observatrice. C'est quelqu'un qui observe.
C'est très important l'observation, voilà, on ne dira jamais assez.
Exactement.
Et c'est la naissance aussi à soi-même, parce qu'elle se voit naître à elle-même. Je vois que vous voyez, je n'ai pas regardé le temps, c'est Cendrillon qui nous joue des tours. On va mettre un petit peu de musique. Flo Descailloux va s'occuper de la musique.
Une composition de l'invité qui s'appelle Novembre, cette circonstance.
Vous êtes sur Radio Libertaire, vous écoutez l'émission Bibliomanie, en présence d'Alain Houarot qui vient nous présenter Cendrillon, c'est moi, c'est paru aux éditions Unicité. Alain Houarot, c'est votre composition, il y a un titre à ce morceau ?
Un titre, oui, je l'ai intitulé Novembre.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est Novembre, et j'allais dire, c'est quand même très raccord avec votre écriture.
Oui.
Surtout dans ce recueil.
Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer certains. Enfin, moi, j'imagine très bien cette musique correspondre à des personnages. Enfin, un en particulier, d'ailleurs, à Jean-François. Je l'imagine très bien, justement, quand il est en train de marcher sur la plage. Et voilà, j'imagine tout à fait la scène.
Alors, qu'est-ce finalement, je vais vous poser une question peut-être un peu difficile, mais qu'est-ce que l'écriture vous apporte? Est-ce que l'écriture, plus exactement, vous apporte ce que la musique ne vous apporte pas ?
Évidemment.
Ouais.
Évidemment. Il y a un complément. On peut dire des choses, on dit beaucoup de choses avec la musique. Peut-être davantage, même qu'avec la parole, mais chacune permet d'exprimer des choses différentes et de les faire comprendre de façon différente. Le langage, il va parler, bien sûr, il y a l'émotion, la beauté du langage, mais il y a quand même le sens. On va exprimer une idée ou plusieurs idées, confronter des idées. La musique, elle va parler Tout d'abord, en tout cas, par le sens.
Oui.
Par tous les sens qu'elle va interpeller. L'oreille, bien sûr, mais pas uniquement. La musique va pouvoir faire naître des images,
oui.
Des couleurs,
mmh.
Des envies. Et elle va porter la personne qui l'écoute. La musique, je le disais tout à l'heure, donc qui naît du silence. Tandis que la parole, la parole ne naît pas du silence. La parole, c'est ce qui est anti-musical. Presque.
Ouais. Elle vient de plus loin.
C'est un bruit.
C'est un bruit.
C'est un bruit qui est insupportable pour la musique.
Mm.
On ne peut pas. Ensuite, la parole, elle est forcément unique. C'est-à-dire qu'elle est linéaire. Tandis que la musique, elle est horizontale et aussi verticale. C'est-à-dire que vous mettez deux personnes ensemble, vous et moi par exemple, on est obligé d'attendre que l'autre ait fini de parler, sinon c'est une cacophonie inaudible.
Oui.
Tandis qu'en musique, on superpose les voix et ça reste parfaitement audible, au contraire. Ça fait toute la beauté de la musique, c'est tout le miracle de la musique.
Le point commun, c'est qu'il y a quand même l'écriture.
Alors, il y a une écriture, effectivement, mais encore une fois, c'est pas du tout la même processus, le même procédé. Un des procédés musicaux...
Le même surgissement ?
Oui. Je ne sais pas. Mais je parle d'un aspect, on va dire, technique. Un des aspects de l'écriture musicale, qui est quand même important pour sa compréhension, c'est la répétition. La nécessité de la répétition.
Le refrain.
Le refrain, bien sûr, voilà. Si on n'y a pas de répétition à un moment donné d'un élément musical, la musique devient incompréhensible. Et c'est, je crois, ce qui explique pourquoi les œuvres monumentales, les difficiles, sont difficilement abordables, alors que tout le monde est capable d'aborder une musique simple comme une comptine au cœur de la lune. Pourquoi ? Parce que c'est basique. Il y a quatre mesures. C'est construit selon le même schéma. D'ailleurs, une anecdote à ce sujet-là de la musique. Combien de fois avec des élèves, des jeunes élèves, je leur parlais de connaissent au clair de la lune, oui, tu connais au clair de la lune, même pas que des jeunes d'ailleurs, des élèves et des adultes, ils ont mis du temps avant de se rendre compte que dans au clair de la lune, il n'y a que deux phrases musicales. Sur les quatre, il n'y en a que deux différentes.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on répète trois fois la même chose, mais on ne s'en rend pas compte. Et pourtant, c'est ça qui construit la pièce. Dans l'écriture, alors, on retrouve des répétitions, bien sûr. C'est un procédé. Un procédé que j'utilise assez facilement, peut-être parce que je suis
On ne le remarque pas trop, finalement.
Oui, mais, voilà. Mais bon.
Vous jouez pas. Il y a beaucoup d'auteurs que je lis, comme vous, qui jouent beaucoup sur la technique de l'écriture,
oui.
Qui jouent beaucoup sur. Qui s'écoutent écrire.
Oui.
On ne sent pas que vous vous écoutez écrire. Ça coule de source. Enfin, je veux dire, les phrases. Ont leur temporalité, leur sonorité de phrase. Par
oui.
contre, elles ont leur propre sonorité.
J'essaye de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible. Et particulièrement dans ce livre, il m'a semblé l'écrire comme quelqu'un qui était en train de raconter une histoire, comme un conteur en fait.
Oui.
Je vais vous raconter l'histoire de Cendrillon, je vais vous raconter l'histoire de Julien, de Jean-François.
Ouais, c'est une histoire qui nous parvient, qui est donc. Alors vous dites, Cendrillon ne questionnait pas, elle se contentait de rester dans le sillage d'un parfum inconnu, s'en imprégnait tant qu'elle le pouvait, tenait de percevoir son origine, ce sens. C'est vrai qu'elle ne se connaît pas, elle naît à elle-même, elle se cherche. Seule, elle apprenait les mots solitude et désir. C'était déjà franchir le portail interdit, la découverte des mots. M-O-T-S et M-A-U-X, peut-être.
Oui.
Et on sent ça. Alors, à un moment donné, c'est pour ça, c'est vraiment des naissances à... Oui, une naissance à soi-même. Chaque nouvelle à la Waro est vraiment la naissance d'un être, la naissance d'une solitude, la naissance d'une histoire. On parlait de fragments tout à l'heure. Et puis, alors, après, il y a la confrontation avec les autres, l'autre soi-même, les sœurs. Est-ce que la notion de sororité, un sens pour vous, à la voix haute. C'est parce qu'on y pense forcément, là, quand on lit Cendrillon avec ses sœurs.
Je avoue très franchement que c'est pas le sujet qui m'a effleuré là-dedans. Les sœurs sont pour moi un des éléments qui permet à Cendrillon de comprendre
comme des nuances
les choses. Oui. Voilà, Cendrillon, encore une fois de plus, c'est l'observatrice, elle observe autour d'elle, dans le silence, et elle essaie de comprendre ce monde qui l'entoure. Et donc, forcément, de se comprendre elle et de savoir qui elle est vraiment et ce qu'elle veut.
Je dirais que presque chacune sont comme des notes de musique. Hein. J'insiste un petit peu, mais il y a le grave et l'aigu.
Oui, elles forment un accord, effectivement.
Il y a le grave et l'aigu.
Effectivement.
L'aînée et la cadette reprirent le cours de leur vie. La première chercha un nouvel idéal. La deuxième multiplia les conquêtes. Elles se maintenaient chacune dans cet espace de vie qui va du portail à la maison, finalement bien sagement. Donc il y a la maison qui est là, la maison de leur maison d'enfance, hein, ou de jeune femme, et elles sont... Alors ça c'est Cendrillon, elles se souvenaient de ces grands espaces ouverts à l'imaginaire, la liberté d'un ciel semblant sans fin, où si le geste revient, c'est toujours plus loin, toujours autrement, la liberté ou le désir de liberté. Le désir de liberté est-il plus grand que la liberté elle-même?
Plus grand en... En tout cas, je ne sais pas justement si on peut atteindre totalement, accomplir ce désir de liberté. Voilà. Donc il y a la liberté, oui, on a une certaine marge de liberté, on va dire. Le désir de liberté est effectivement plus grand. On a envie de, enfin Cendrillon du moins, on aurait envie d'aller plus loin, on aurait envie d'aller à autre chose.
Donc on va passer, alors là, après, alors là, c'est vrai que Cendrillon, c'est le féminin pluriel quand même, ce que j'évoquais tout à l'heure. Là, on va passer au masculin singulier, peut-être c'est Julien, c'est d'autres nouvelles.
Oui.
Le temps nous égare, le temps nous étreint, le temps nous égare, le temps nous étreint, T-R-A-I-N, de Jacques Prévert, ça c'est le vers de Prévert qui accompagne la nouvelle Julien, que moi j'aime beaucoup. Je pense que vous l'aviez lu. Je pense que vous l'aviez lu à la Ouaro.
Ah oui, je l'avais lu effectivement. j'en avais fait une lecture que j'avais mise sur les réseaux sociaux.
Voilà.
Effectivement.
Et je pense que vous l'avez lu. Et je l'aime beaucoup, cette nouvelle, parce que ça. Il y a tout ce que vous. Il y a tout ce que vous êtes, en fait. C'est très musical. C'est très rythmé. C'est même chiffré.
C'est très chiffré, effectivement.
Et c'est virtuose, parce que c'est comme s'il y avait le compte à rebours que vous enclenchez dans cette nouvelle.
C'est un compte à rebours, il y a 7 jours.
Ouais.
7 jours qu'il va falloir, et d'ailleurs la nouvelle est clairement divisée, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, jusqu'à ce... Et bon, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 7 jours? Mystère. Effectivement, c'est très chiffré. C'est une façon aussi... Dans ce chiffrage, cet aspect mathématique, parce qu'il n'y a pas que le chiffre, il y a aussi de la géométrie.
Oui, oui.
C'est une façon d'écrire, de faire le portrait du personnage, du moins de son caractère. Et de lui donner un caractère de quelqu'un qui a... Les choses sont très cadrées, rien ne doit sortir des rails. Tout est
et pourtant,
bien prévu.
Il va sortir de rail.
Voilà.
Ça se passe dans une gare.
Voilà.
Il y en a des rails.
Voilà.
Mais ce que j'ai aimé, c'est ce rythme intérieur. Et aussi la contrainte, parce que vous jouez beaucoup avec la contrainte. Vous vous débrouillez fort bien, parce que là, c'est pas évident du tout. Julien aimait la régularité, la ponctualité, la précision, un méthodique, un adepte du carré bref. Et chaque moment de sa vie, c'est tic-tac, 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 tic-tac.
Oui.
C'est, on dirait que son cœur battant, on l'écoute. Vraiment. Et à chaque pas, chaque geste, chaque minute, chaque seconde, on la ressent. Est-ce que ça vous est... Parce qu'on sent, il y a une réflexion aussi, ce que je veux dire aux auditeurs. Cendrillon, c'est moi, c'est un recueil aussi, c'est comme une interrogation sur le temps, la temporalité.
Oui. Bien sûr.
Et là, on le sent vraiment,
on le
chronomètre.
Sent, oui, oui.
Est-ce que ça, c'était très puissant en vous quand vous l'avez écrit?
Ah oui, oui, ça c'était. Il fallait que ce soit comme ça. C'est parti. Tout le long, il fallait qu'il y ait cette contrainte. Mais de toute façon, la contrainte, c'est ce qui permet de donner de la liberté à beaucoup de choses, qui permet de découvrir beaucoup de choses. Faut pas croire que parce que on peut faire n'importe quoi, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est ça la grande liberté. Non, il y a une contrainte de forme qui permet de découvrir. Et en musique, c'est pareil. Une forme va amener à faire des trouvailles prodigieuses.
Là, je trouve que la forme amène très loin. Je vais lire quelques. J'ai failli vous. Je serais presque tenté que vous nous lisiez le début de la nouvelle. Tout ce qu'il pouvait effectuer en temps normal, il parvenait à le réaliser à ce moment-là. Il avait juste davantage de temps pour compter le temps, justement. Il pouvait observer plus finement les petites nuances d'un calendrier bien réglé, les infimes modifications du relief des jours. On sent que c'est. Voilà, il est pris par son temps, il est pris par son souffle, il est pris par ses gestes, cette vie qu'il essaye même pas de saisir. Il est dans la vie.
Il est dans la vie, c'est sa vie mesurée, chronométrée, qui le rassure, qui lui permet de tenir finalement, de tenir debout, de poursuivre. Et en étant persuadé que rien ne pourra faire dérailler la machine.
Voilà. Alors, il est question, c'était la guerre du milieu, celle de ceux qui descendent et de ceux qui montent, celle des destins qui s'ignorent et qui se croisent. Rien de commencer ni de se terminer sur ce quai. Point de jonction entre deux vies à l'instant séparé, deux solitudes, raccrochant le temps comme des solitudes accompagnées. Plus loin, seul le train est sûr de sa destination. Est-ce que vous voulez nous lire le début ?
Ah, je veux bien, oui.
Hein ? Parce que voilà, ça donnera aux auditeurs. Attendez, je vous laisse. Attendez, allez où ? Tac, tac, tac. Je cherche. Ça donnera. Voilà, Julien. Tenez. Ah bah oui, vous avez votre.
Alors je vais lire peut-être le premier jusqu'à carré. Bref.
Oui, voilà.
Voilà. Julien logeait non loin de la gare, une gare de campagne de peu de voyageurs. Il s'y rendait tous les matins à vélo, s'asseyait un instant sur un banc et regardait passer le premier train du jour qui ne s'arrêtait pas. Il se rendait ensuite invariablement sur la place du village, prenait son premier café, sa première cigarette, adressait son premier sourire à la serveuse avec les premiers mots qui venaient rompre le silence de la nuit. Il était venu passer là une semaine de vacances. Il mangeait ses deux croissants, lisait les deux premières pages du journal et prenait un deuxième café. Une fois terminé, il attendait encore 2 minutes, laissait 2 euros de pourboire et saluait les 2 employés qui s'étaient postés de chaque côté des 2 marches à l'entrée du café. Il enfourchait à nouveau son vélo qui se trouvait à 3 pas de là, empruntait les 3 rues qui menaient au numéro 3 de la rue des Mousquetaires, où, pour 3 fois rien, il achetait 3 livres d'occasion. La libraire se mettait toujours en 4 pour lui. Quelqu'un sur qui on pouvait compter. La journée commençait idéalement, parfaitement mesurée. Julien aimait la régularité, la ponctualité et la précision. Un méthodique, un adepte du carré bref.
Merci Alain Warou. Donc justement, ben c'est, y a la temporalité dans ce... Est-ce que vous avez pensé à en faire par exemple un roman de cette nouvelle à un moment donné ? Ou pas, il fallait que ça soit
non.
Bref ?
Non, il fallait que ce soit bref. Par contre, si on peut parler de romans par rapport aux nouvelles, alors ce sont 5 nouvelles qui ont effectivement leur indépendance,
oui,
leur autonomie.
Ouais.
Mais pour moi, elles forment un tout. J'ai presque envie de dire comme si l'ensemble, en fait, c'était
un roman
avec une forme un peu particulière, c'est-à-dire des personnages qui se présentent comme étant différents, dans des situations différentes, des lieux différents, des temps différents, mais en fin de compte, est-ce que c'est pas les mêmes personnages?
Ça, c'est
qui
la
sont
grande
simplement
question.
Déguisés.
Oui, est-ce que Cendrillon n'est pas Julien? Est-ce que Julien n'est pas Louise, etc., etc.
Est-ce que la Cendrillon n'est pas la mystérieuse?
D'où l'idée de la couverture.
Exactement.
Mais alors, c'est votre éditeur ou c'est vous qui avez eu l'idée de cette couverture?
Non, c'est moi.
C'est vous, hein?
C'est moi.
Avec toutes les nuances, enfin on est un peu dans le bleu foncé,
bleu
clair, un peu plus clair, avec ces nuances de lumière sur votre propre visage.
Voilà, avec surtout des expressions de visages différentes, qui peuvent correspondre à certaines nouvelles.
Est-ce que ce livre pourrait faire l'objet d'un, d'un film en 5 parties.
Ah, mais vous rigolez, mais ça me fait plaisir parce que.
Oui. Non, mais j'imagine. Moi,
parce que j'imaginais la même chose, ouais, de ces fameux films à sketch qui avaient une époque. Effectivement, je l'imaginerais très bien de cette façon-là.
Vous savez tout aussi, je pense aux études de mouvement. Je pense aussi à Marcel Duchamp, le nu descendant les. Vous savez, on verrait ces 4 personnages sur 5 plans différents, d'ailleurs, ces 5 personnages, 5 plans différents, avec leur démarche chacun, une sorte de polyphonie gestuelle, un peu comme en peinture, on l'a vu, ou c'est quelqu'un qui. Pierre-Auguste Marais, non, c'est celui qui étudie le mouvement, c'est-à-dire les premiers films où on voit cette sorte d'alphabet du mouvement. Voilà, je cherche un peu, et on le voit, et ça pourrait. Moi, je suis sûre. Pourriez faire un.
Oui, je ne sais pas si moi je pourrais le faire, mais c'est vrai que je l'ai imaginé, cette possibilité-là, comme un rêve.
Comme une fresque.
Oui, tout à fait.
Une fresque. On va passer un peu de musique. Alors, ça va être encore.
Alors, qu'est-ce que vous préférez, la gavotte, la mazurka ou la bagatelle? Qu'est-ce que je passe?
Allons-y pour la gavotte.
La gavotte, on y va.
Thank you.
Et oui, vous êtes sur Radio Libertaire, vous venez d'entendre Bach, n'est-ce pas?
Bach, la gavotte, une suite, et son double.
Pourquoi ce choix?
Pourquoi ce choix? Parce que c'est une musique que j'aime beaucoup.
Oui, moi aussi.
musique de Bach, bien sûr. Bach n'a pas écrit pour la guitare. Mais c'est une pièce qu'il a transcrite pour le... qu'il a adaptée au luth. Pour le luth, puisqu'il nous a laissé quelques suites pour le, cet instrument-là. Et qui était à l'origine écrite pour le violoncelle. Mais la transcription était vraiment même l'autotranscription, une pratique très, très utilisée à l'époque.
L'autotranscription, ça, j'aime bien ce mot aussi. C'est vrai que c'est des autotranscriptions aussi, vos nouvelles. Et ce sont aussi, surtout, des variations.
Des variations, effectivement. Quelqu'un avait parlé de mouvement d'une symphonie, j'avais repris. Et effectivement, on pouvait même s'amuser à mettre, comme dans un mouvement de symphonie, on met allegro, scherzo, etc. Je m'étais amusé à lui répondre qu'effectivement, on pouvait faire ça avec chaque nouvelle.
Ouais, avec sur des variations d'existence.
Oui.
Alors, Louise, ça c'est la troisième nouvelle. J'ai tant rêvé de toi qu'il est plutôt sans doute que je m'éveille, ça c'est Desnos. Présentez-nous ce personnage de Louise.
Ah! C'est le personnage de Louise, c'est le plus mystérieux, je pense.
Oui.
Plus que la mystérieuse elle-même.
C'est pour ça que je vous laisse la présenter.
Oui. Le plus mystérieux. Peut-être le plus personnel. Peut-être le plus intime, d'une certaine façon. Et c'est peut-être pour ça qu'il a. J'ai voulu lui garder cette notion de mystère. Alors, maintenant. Louise, il y a une image, un souvenir d'enfance. On voyait à la télévision quelqu'un qui était en train de dessiner, ça se fait encore je pense, et on voyait le dessin se faire au fur et à mesure. On voyait une marionnette, et la marionnette, au-dessus de la marionnette, on voyait le fil, puis il y avait un marionnettiste qui était souriant parce qu'il dominait sa marionnette. Et puis, petit à petit, au-dessus, on découvrait un autre marionnettiste qui faisait bouger le marionnettiste. Et cet autre marionnettiste avait les traits de Méphistophélès, carrément. Et cette image-là, cette image que j'ai gardée longtemps, dont je me souviendrai toujours. Et je ne dis pas que c'est ça qui m'a inspiré la nouvelle de Louise, mais il y a de ça là-dedans.
Ouais, c'est, vous dites qu'elle n'avait rien d'un personnage de roman, mais elle était le roman de sa vie. Une solitude dans un désert qu'elle n'avait pas choisi.
Oui. Donc, grosso modo, Louise est seule. Est seule. Et son personnage, son compagnon, c'est ce qui est dit, est une invention. C'est son invention à elle. C'est un personnage qu'elle a créé. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de ce rapport de marionnette. Mais il y a vraiment, il y a plusieurs niveaux. Alors, dans Louise, il y a j'ai envie de dire, il y a les deux personnages, Louise,
oui.
Son compagnon qui s'appelle René, et puis il y a un troisième personnage, et j'aimerais dire, il y a un quatrième personnage, qui est le lecteur.
Oui, bien sûr.
qui est carrément interpellé à un moment donné.
Bah, c'est lui qui signe chacune de vos nouvelles, enfin qui les finalise quelque part, le lecteur.
Oui.
Même si elles sont très bien finalisées.
Oui, mais là, il est vraiment interpellé. Et même mis en accusation.
Elle n'avait rien de ça, je l'ai déjà dit. Et j'ai appris d'abord à anticiper, à être au-devant de ce qu'elle connaissait, puis à inventer de nouvelles images qu'elle découvrait. J'étais à la fois intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur, ça on retrouve très souvent hein, dans vos nouvelles.
Oui.
La frontière entre l'intériorité, l'extériorité, ce qui se passe quand on sort, quand on traverse une rue, quand on le cadre aussi intime de la vie intime.
Voilà. Et dans le cas présent, donc c'est René là qui parle.
Ouais.
Il est intérieur parce qu'il est l'émanation de Louise. Mais cette émanation, Louise lui a donné une partie, une certaine autonomie, on revient à cette notion d'autonomie, qui est l'extérieur,
voilà,
l'extérieur de Louise.
Ouais. Voilà. Avec cette présence qu'il a d'autre, c'est avec tout cela que je suis bien, que je me lève et bandaille le décor en s'effondrant, m'entraînerait dans sa chute. Mais c'est vrai, chacun, c'est l'invention de sa... de sa solitude, de sa multitude, de son existence. C'est toujours « je » et « un autre » qui t'invente et qui te construit.
Oui.
Ça, c'est... Est-ce que ça, c'est votre nouvelle préférée ou vous n'en avez pas de préférée? Vous aimez tous vos personnages,
je suppose. Ça dépend des moments.
Ah bon?
Ça dépend des moments. Oui, parce qu'ils sont tous des caractères très différents. C'est vrai que Julien, c'est la nouvelle que moi j'avais baptisée le Scherzo, c'est-à-dire la plus amusante.
Oui, mais c'est pour ça que je l'aime, moi.
Louise, c'est peut-être la plus douloureuse. La plus mystérieuse et la plus douloureuse.
Ah, la mystérieuse est pas mal non plus, hein, ça je vous confirme. Celle qui conclut le recueil, moi je la trouve très bien.
Oui.
Elle synthétise peut-être tous les mystères.
On peut faire un saut. Oui. Donc cette mystérieuse, pour moi c'est la prolongation de Cendrillon en fait.
Oui.
Dont on peut dire qu'elle n'a pas réussi finalement, parce qu'elle est revenue. La mystérieuse, c'est la petite fille, pas la fille, mais la petite fille de son grand-père qu'elle n'a pas connu et dont elle lit une lettre. Voilà.
Et avec cette phrase de Samuel Beckett, le silence est notre langue maternelle. Voilà, qui commence, qui inaugure cette nouvelle à la voix haute. Et alors, il y a aussi ça dans la mystérieuse que j'aime beaucoup, c'est comme un haïku. Là-bas, ici, de l'autre côté.
Oui, c'est le ressac. C'est le mouvement de la mer, c'est le ressac, la mer sur les falaises, etc. Puis cette nouvelle a été inspirée par la ville de Dieppe. Je crois que on parle de Dieppe dedans.
Oui, on parle, oui, tout à fait.
Voilà. Et ce mouvement de la mer, est-ce qu'il y a ce mouvement de la vie aussi ?
Mouvement de la vie, mouvement de la marche,
voilà.
De l'errance. Et alors Jean-François, alors pour Jean-François, voici la phrase que vous mettez en exergue. Et voici mon toujours qui débarque à ma plume, avec ce qu'il y faut de soleil et de brume. C'est une phrase de Jules Supervielle. Supervielle, quel magnifique poète.
Ah oui.
Et là aussi, dans la brume, je pense à L'enfant de la haute mer, qui est un très beau livre de Jules Supervielle. Et présentez-nous Jean-François. Alors vous dites, il joue contre le temps, sans cesse en retour, sans cesse en repli. Il n'y a pas de ligne droite, mais des lignes brisées qui se chevauchent et vite, avant de tomber, prendre les passerelles de l'une à l'autre jusqu'à l'épuisement, son épuisement à lui, parce que rien d'autre ne sera épuisé.
Oui, alors Jean-François, c'est un musicien.
Alors c'est peut-être vous.
Mais ils sont tous
moi. Ils sont tous vous.
Ils sont tous moi. Non, donc c'est un musicien. Et avec qui je fais le parallèle entre mener une phrase et mener sa vie.
Oui.
La musique est construite de phrases, on peut appeler ça des phrases,
oui.
Qui ont un début, qui ont une fin, et qui ont un mouvement. Et chaque fin de phrase se conclut par un silence. Mais ce silence n'est pas la fin. C'est toujours le début.
D'une autre phrase
ou d'une autre histoire. Voilà. Et donc, il se retrouve, c'est le personnage qui se retrouve à ce point-là de passage, de transition, justement, entre deux phrases. Il a besoin d'achever une phrase qu'il n'arrive pas à achever sur son instrument de musique. C'est en parallèle avec sa vie personnelle. Je ne sais pas s'il faut raconter.
Si, vous pouvez. Vous pouvez.
Donc, on apprendra par la suite que Jean-François, en fin de compte, a perdu son épouse. Son épouse est décédée. Et donc, c'est en parallèle avec cette histoire-là, bien évidemment. Et donc, ce passage d'une phrase à un autre, d'un moment de vie à un autre. Comme on passe d'une phrase musicale à une autre, d'une forme musicale à une autre, d'un style musical à un autre.
Ça d'interlude ?
Non, même pas. Même pas.
C'est
un pont.
C'est un pont.
C'est un pont. Passer d'une rive à l'autre.
Ouais, ça rejoint la notion d'intervalle dont on parlait tout à l'heure.
Oui, oui, de toute façon. Oui.
C'est le lien.
Oui, c'est le lien.
Il est venu chercher un peu de vent, entendre un autre chant, la vivacité du vent sur le visage, le rythme mesuré des vagues, ce qu'il y a d'accompli et d'échappé.
Ah. Oui.
Donc, en fait, Jean-François, il revient à la vie, petit à petit.
Et il va
à une autre, vers
à
une
autre vie.
Vers une autre vie.
La vie, c'est un empilement de moments, hein, d'instants, comme toutes ces nouvelles sont des instants qui sont pris. C'est pas forcément quelque chose de. On voit toujours ça de façon linéaire, horizontale, mais je sais pas si sont. Peut considérer que c'est unique, la vie est uniquement un mouvement horizontal qui va d'un. C'est trop facile de dire du passé, présent, futur. Pour moi, c'est plus compliqué que ça. Il y a une notion de verticalité.
Oui.
Voilà, c'est peut-être le musicien qui parle aussi, je ne sais pas.
De séquence ? De plan séquence ?
De plan séquence, voilà.
Est-ce que vous êtes un lecteur de Virginia Woolf à la Waro ?
Non.
Non. Non, mais on y pense aussi. On pense à cette traversée des apparences, à ce. Vous savez, les vagues, par exemple.
Oui,
voilà.
Oui.
Voilà. On pense à ces résonances de vie.
Mais je suis touché qu'on trouve des correspondances avec des choses que je ne connais pas, ou que je ne connais pas bien.
Oui.
C'est très rassurant, quelque part.
Alors après, vous vous dites, n'essaye pas de jouer comme hier, tu dois saisir ce que aujourd'hui te dit. Donc c'est quand même aussi votre recueil de nouvelles à la Waro, c'est aussi sur le moment présent. C'est très présent ça justement, ce moment présent. C'est pas dans le passé, enfin il y a le passé, mais le futur il est... Mais c'est vraiment dans la présence, dans l'intensité du moment présent.
Oui, je dirais plutôt dans la présence que dans le présent.
Ouais.
Dans cette... c'est pas une, il y a pas de séparation vraiment entre le passé, présent, futur. C'est la présence à l'instant. Chaque instant est là. On est présent, et à chaque fois on a un nouvel instant. Et chaque nouvelle sont des instants assez courts.
Est-ce que vous les avez est-ce que vous avez mesuré vos nouvelles? Est-ce que vous avez dit je fais tant de pages?
Pas du tout.
Pas du tout. Vous
pas
êtes.
Pas du tout. Non, non. J'ai. Non, pas du tout. Là, je suis pas Julien pour ça. Par contre.
Oui, voilà.
J'ai dit ce que j'avais à dire dans la nouvelle.
Ouais. Est-ce que vous les avez relus beaucoup quand vous avez écrit? Est-ce que vous avez lagué beaucoup?
Non.
Ou inverser des paragraphes
Non, 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 ça très peu. C'est-à-dire que je corrige, bien sûr, il y a des choses que je corrige, mais en fait assez peu. Parce que c'est réfléchi longtemps dans le silence, en marchant, en restant assis, à rien faire, ou en conduisant la voiture, les choses se construisent comme ceci. Donc après... c'est presque du remplissage. J'ai déjà la musique dans la tête, j'ai déjà la structure dans la tête, et donc il y a des corrections, mais il n'y en a pas énormément. C'est les brouillons que j'ai ne sont pas à noter, écrivouillés de partout. Non, non. Par contre, ce qui m'a posé réflexion, c'était l'ordonnancement des nouvelles. Parce que dans un premier temps, j'ai songé à les mettre dans l'ordre, tout simplement, dans
l'ordre
lequel...
L'ordre de naissance ou d'arrivée,
d'arrivée.
Quoi. Ouais, voilà.
Voilà. Donc, j'ai quand même chamboulé pour tenter de redonner une unité, une cohérence, justement, et qu'on puisse, que le lecteur puisse relier plus facilement les nouvelles, les unes avec les autres.
Et du relief aussi, du relief. Enfin, c'est-à-dire, c'est... La nouvelle de la fin fait écho à la première nouvelle, deuxième nouvelle fait peut-être écho à la quatrième nouvelle, je n'en sais rien, mais avec un noyau central. Alors,
exactement, donc ce qui m'est apparu très, très, très évident, c'était la première et la dernière.
Voilà.
Après, j'ai eu plus de doutes. Maintenant encore, je me dis parfois, peut-être que j'aurais dû mettre celle-là avant, puis celle-là après, je ne sais pas.
L'imaginaire du détail aussi, vous en parlez. Ça, vous aimez bien ces petits détails. Il y a des petits gestes, il y a des petites, je dirais presque, des estompes, on peut parler picturalement. Mais
oui,
c'est...
Je suis très sensible aux détails, aux petites choses. Un brin d'herbe est aussi important qu'un immense paysage. Un chant d'oiseau.
Ouais, voilà.
Tout petit, infime, qu'on entend au milieu du bruit. Tiens, c'est ça qu'on va repérer. Le détail, c'est très important, oui.
Ouais, c'est ce qui fait la petite note qui fait ressurgir toutes les autres.
Oui, oui, oui.
On va écouter un petit peu de musique, puisque je parle de notes, justement. On va faire une autre pause musicale. Je ne sais pas ce qui nous attend, là, cette fois-ci, mais on verra.
Alors, c'est, cette fois, ça va être la bagatelle, et c'est vous qui, est qui êtes l'auteur, le compositeur plutôt.
Écoutez Radio Libertaire 89.4, l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence d'Alain Moirot, qui vous présente son nouveau livre, Cendrillon, c'est moi, ça vient de paraître aux éditions Unicité. Alain Moirot, donc vous êtes guitariste, et là, c'est vous qui avez pris le large avec votre instrument.
C'est moi qui ai commis ça, oui.
Vous pouvez nous présenter cette œuvre, nous dire, est-ce qu'elle a un titre, est-ce que...
Alors bon, elle a, je lui ai donné un titre parce que pour la reconnaître sur l'enregistrement, donc je l'ai appelée Bagatelle, parce que pourquoi Bagatelle? Parce que c'est une petite chose, voilà, c'est une bagatelle. Non, sinon elle n'a pas de, pas de titre, c'est une pièce qui est quasiment improvisée, que j'ai enregistrée, mais je ne sais même pas si j'ai écrit notre... tout, parce que j'écris parfois des morceaux, et puis comme je suis un peu paresseux pour certaines choses, je ne devrais pas le dire, mais j'écris pas totalement, et puis je ne considère pas ça comme étant comme étant qu'une bagatelle, donc voilà.
Oui, est-ce que vous écrivez, enfin pareil, toujours la même question, j'ai l'impression que c'est très mental, enfin je veux dire que ça soit pour l'écriture de la musique comme l'écriture tout court, c'est dans la tête.
Oui, c'est oui, c'est dans la tête. Sauf que là, avec la guitare, bien souvent, ça passe avec l'instrument, mais peut-être qu'il y a, un tel depuis le temps que je fais, que je joue, que je fais la guitare, il y a un tel lien entre la pensée et le geste.
C'est mémorisé dans vos.
Oui, voilà, ça se met en place. Après, oui, on y pense avant, bien sûr. Tout se construit avant. Hein. On peut reprendre une phrase de Picasso, quelqu'un qui disait, mais je comprends pas que vous avez mis 3 minutes à faire ce dessin et que ça coûte autant d'argent. Je lui ai dit, mais j'ai pas mis 3 minutes à faire ce dessin, j'ai mis toute ma vie.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est un petit peu ça, quoi, sans trop de prétention.
Non, mais il n'y a pas... Le temps est d'ailleurs, je vous dis, une réflexion de votre travail à la Moirot. Et le temps est le sujet de réflexion de tout écrivain, de tout créateur. Alors, il y a une différence. J'aimerais qu'on revienne à votre façon d'écrire, à votre Bon, même si vous me dites que voilà, vous n'êtes peut-être pas un écrivain à plein temps, comme on dit, peut-être à mi-temps ou à temps partiel, je n'en sais rien. Il y a une différence entre Cendrillon, c'est moi et le monologue du voisin Kafka qui est paru chez Jacques Flamand, qui nous a quittés d'ailleurs cette année.
C'est oui,
un très bel éditeur.
C'était un grand éditeur qui a édité de belles choses. Et puis c'est quelqu'un qui avait une foi dans ce qu'il faisait et qui s'est investi d'une façon assez, assez remarquable.
Alors moi, j'ai lu donc ce monologue du voisin Kafka. Je vais citer quelques phrases, parce que c'est totalement différent. Enfin, pour moi, c'est... J'étais ainsi enfermée dans la solitude d'un monologue dont chaque mot, chaque inflexion pouvait être détourné de leurs objectifs, de leur sens, sans qu'il fût possible de revenir à une réalité simple et claire, d'infléchir la courbe des imaginaires galopantes. Autre phrase, ainsi se passait le plus étrange ballet qui soit, entre intérieur et extérieur, une errance incessante entre cette prison qu'ils créent eux-mêmes et cet extérieur qui les condamnait à chaque audience à y revenir. Une dernière phrase, je continuais donc à parler seul comme je l'avais toujours fait depuis mon enfance. Parler seul, n'est pas signe de dégénérescence ni preuve de sénilité avancée, mais à la façon d'un sonar le moyen de trouver dans l'écho perçu l'image plus précise de ce qu'on a cru pouvoir écrire. Ça c'est, voilà, parler seul. Est-ce que c'est pour parler seul aussi que vous écrivez à la voix haute? Est-ce que c'est pour écouter l'écho que vous ne connaissez pas, de cette voix que vous ne connaissez pas et qui est en vous?
Bien sûr, cette histoire d'écho, c'est la réponse qu'on va recevoir, la réponse des autres,
oui.
Ou qu'on ne recevra pas, mais on est en attente de cet écho, parce qu'il va nous éclairer sur aussi bien sur les autres que sur nous-mêmes, quelque part. Et on a toujours quand des personnes me parlent de ce que j'ai écrit et qu'ils me disent comment ils l'ont compris, comment ils l'ont vu, je trouve ça extraordinairement passionnant parce que on a parfois des surprises, parfois des mauvaises, mais souvent des très belles surprises.
Alors là, entre le monologue du voisin Kafka et Cendrillon, c'est moi, vous passez du jeu où il, elle, c'est-à-dire il y a un changement de pour la narration. Est-ce que là encore vous allez évoluer? Est-ce que vous allez évoluer vers le roman encore? Je crois que vous avez écrit un roman d'ailleurs.
Oui, voilà, petit roman, c'était Les gens heureux.
Oui, voilà.
Je ne sais pas si je vais évoluer vers le roman.
Ou est-ce que vous resterez dans la nouvelle et le bref, l'art du bref?
Voilà, j'aime les formes courtes. Après, ces formes courtes peuvent constituer un tout plus important. Voilà, je suis de toute façon en état de recherche, on va dire.
Vous avez des projets en ce moment? Sur quoi travaillez-vous précisément ou pas?
Pour l'instant, je suis dans le silence.
Vous êtes dans le silence. Est-ce que vous attendez que l'écriture vienne à vous? Est-ce qu'il y a des moments où vous attendez... Il y a des écrivains comme ça qui attendent l'écriture frappe à leur porte.
On attend ça. Et puis, le besoin, l'urgence, l'envie. Je ne vais pas me mettre tous les matins à 8h ou à 14h du matin, peu importe, devant ma feuille blanche, en me disant il faut que je remplisse ma feuille blanche. Non. Donc, je sais que les sujets, les thèmes, de toute façon, ils foisonnent, ils vont naître, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait un effet, que ça fait une rencontre avec quelque chose d'intérieur. Et à ce moment-là, ça parlera.
Alors, vous avez mis du temps à publier votre premier livre, on peut dire. Quel était le déclic à un moment donné de votre vie? Vous êtes dit, là, faut que j'y aille.
Ça a d'abord été le...
Ou alors, est-ce que vous y écriviez depuis bien longtemps avant, voilà, et que la publication est venue? Parce que ça aussi, ça arrive très souvent pour les écrivains.
C'est en fin de compte, oui. À un moment donné de ma vie, je me suis remis à écrire ce que j'avais abandonné parce que je faisais un métier qui est prenant et qui me passionnait, qui me passionne. Et puis à un moment donné, j'ai eu besoin de réécrire. de réécrire de la poésie, puisque c'est ça que j'écrivais quand j'étais plus jeune, sans aucune... Enfin, j'avais envie d'écrire. J'ai toujours hésité entre ces deux formes, la littérature et la musique. Voilà, donc c'est revenu à ce moment-là. Donc je commence à écrire des poèmes. Et puis, puis je me suis dit, pourquoi pas ? On va essayer.
Donc il y a eu un moment où c'est devenu une évidence.
C'est devenu... Oui, une tentative. Je dis,
où l'appel s'est fait plus fort pour vous.
L'appel s'est fait plus fort, je veux dire, on va oser. On va oser le pas.
Et vous avez osé. Quel est quel serait le fil d'Ariade entre vos différents livres ? Est-ce que vous le connaissez ou pas, ou peu, ce fil d'Ariade ? Est-ce que c'est la musique ? Est-ce que c'est le silence ? Est-ce que c'est la destinée ?
Ah, je vais répondre bêtement, je vais dire tout ça à la fois. La destinée, oui, bien sûr.
Dire oui ou dire non à sa destinée.
Oui, mais c'est j'ai envie de reprendre le début de Cendrillon, enfin de ce qu'on a dit sur Cendrillon, c'est l'observation, en fait. L'observation de ce qu'il y a autour de soi et en soi, et de la relation qui s'établit entre les choses. Le besoin de comprendre, le besoin de dire quelque chose que finalement je serais seul à être capable de dire, c'est-à-dire ma réalité.
Oui.
Alors, je pense qu'il n'y a pas de réalité vraiment en soi, enfin qu'elle est inatteignable, mais que chacun peut définir, décrire cette réalité-là. Je crois que c'est cette envie-là.
Est-ce que écrire pour vous, c'est vivre par procuration, ou vivre, c'est écrire par procuration ?
Non.
Que vous ressentez quand vous avez fait des vies, hein, finalement,
c'est des fragments de vie. C'est des fragments de vie, mais alors, ce sont des fictions.
Oui, voilà.
Mais, bien évidemment, ce sont des fictions, mais pour moi, il n'y a pas de fiction pure, ça n'existe pas. Donc, ce sont des fictions qui ressortent de l'observation. Il y a toujours des personnages qui ont réellement existé. On les travestit, bien sûr, pour pas qu'on les reconnaisse. Il y a des lieux qui ont toujours existé, je ne vais pas inventer un lieu. Et après, il y a le mélange de plusieurs lieux, ou le mélange de plusieurs temps, de plusieurs époques différentes. Donc, ce sont toutes des choses qui, finalement, ont existé. C'est pas Boris Vian qui avait écrit à l'entête de l'écume des jours, cette histoire est totalement vraie, puisque je l'ai complètement inventée.
Oui, je pense.
Voilà, c'est quelque chose comme ça. Voilà, pour moi, ce que c'est que la fiction. Donc, la fiction, c'est... Quand je dis Cendrillon, c'est moi, c'est pas une blague.
Non, mais je vous crois, je vous crois. Est-ce qu'on pourrait parler d'ailleurs d'un dialogue entre le féminin et le masculin dans ce livre ? Puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, le genre, transgenre, etc., la notion de féminin, de masculin.
Oui.
Et là, c'est comme un choral aussi. Enfin, je veux dire, c'est le masculin qui pourrait être féminin. Vous voyez, vous passez quand même d'une vie à une autre.
Oui, tout à fait. Et parce que...
des parts de féminité chez un homme, il y a peut-être peu de masculinité chez les femmes, je n'ai pas remarqué.
Je ne suis pas rentré du tout, et je ne suis pas rentré dans cette histoire de genré, etc., de pas genré. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement que le postulat de départ, c'est-à-dire le thème de Cendrillon, sa dialectique, son sens, et convient, est unisexe. Ce désir de... C'est pas uniquement réservé à
non, non, c'est à un universel, genre.
C'est universel.
C'est universel.
Voilà.
C'est bien d'accord.
Cendrillon, c'est moi, c'est
oui.
C'est vous, c'est elle.
C'est le désir d'exister.
Le désir d'exister, tout simplement.
D'exister. Voilà. Quels sont les écrivains qui ont marqué votre vie de lecteur ?
Alors, ben, tout à l'heure, on en parlait, bien sûr, il y a Franz Kafka.
Oui.
Kafka, je l'ai découvert comment ? Parce qu'à l'adolescence, j'ai lu Camus. Donc forcément, Camus parlait de... Voilà, on va chercher un petit peu à droite, on fait des découvertes, ainsi de suite. J'ai beaucoup... Mais ça, c'est mes souvenirs de lycéens. On avait étudié Flaubert à l'époque, Madame Bovary, tout ça, ce sont des écrivains que j'aime beaucoup. à d'autres écrivains, Valérie Larbeau, après on entend dans le cadre de
qui est un peu plus méconnue maintenant d'ailleurs, Valérie
ouais,
Larbeau.
C'est dommage, mais enfin...
mais j'y ai pensé d'ailleurs, j'y ai pensé en vous lisant.
Oh ben.
Non mais dans le côté délicat, enfin le côté... puis la destinée.
Oui.
La destinée. Oui. Et puis l'interrogation quand même sur la féminité aussi. Qu'est-ce qu'être une femme? Qu'est-ce qu'être un homme? Enfin, il y a un peu tout ça.
Après, il y a toutes ces influences qui vont ressortir involontairement, on va dire inconsciemment.
Ouais. Puis l'errance aussi, on pourra en parler.
Oui,
alors Valérie Larbeau, et
Valérie
après...
Valérie Larbeau, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu toute la toute cette Aragon, Éluard, tout ça, qu'on a connu toujours pareil, adolescent ou poste. Adolescent, que les chanteurs aussi ont permis de faire connaître, hein, même si on peut regretter ou préférer que le poème soit lu plutôt que chanté. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Supervielle, Desnos, on va parler, enfin, tout ça,
beaucoup
c'est
de poésie.
Beaucoup de poésie, voilà. Au départ, c'est beaucoup de poésie.
De poésie. Est-ce que vous êtes un lecteur boulimique, un relecteur, un lecteur de classiques, de nouveautés?
Je suis un lecteur pénible.
Ah, oui, aïe, aïe. Vous adotez beaucoup vos livres?
Non, pas du tout. Non, je dis ça dans...
Vous êtes obsessionnel?
Non, pas du tout. Non, c'est que je... Pour entrer dans un livre, j'y rentre de suite ou je n'y rentre pas.
Oui, ben ça je comprends, oui.
Voilà, donc ça va très vite. Je lis les premières pages et puis on a beau me dire que c'est un grand livre, que c'est un grand auteur, c'est peut-être un grand auteur, je n'y rentre pas, je n'y rentre pas. C'est pour ça que je dis que je suis un lecteur pénible.
Vous n'insistez pas?
Je n'insiste pas, voilà.
Est-ce que vous pouvez y revenir bien des années plus tard, par contre?
Oui,
ça arrive.
Ça arrive, oui, ah oui, ça oui. Parce que finalement, ça dépend aussi du moment, de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Là, dernièrement, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre de Colette, que je ne connaissais pas bien. J'attendais un train, je suis rentré dans la FNAC à la gare Montparnasse, et j'ai pris, tiens, je vais prendre ça, j'ai pris, je crois que c'était le dernier de la série des Claudine qui s'appelle La retraite sentimentale.
Ouais.
J'ai pris un deuxième, j'ai dit tant qu'à faire, ils sont pas très gros, je vais prendre un deuxième, donc j'ai pris La chatte aussi.
Et comme
voilà,
ça.
Je suis rentré dedans complètement.
À ce moment-là précis.
À ce moment-là précis.
C'est ça la lecture.
Et j'ai adoré ça. Qu'est-ce que j'ai d'autres lecteurs, d'autres livres que auteurs que j'ai lus qui m'ont. Mais c'est toujours pareil, c'est quand j'étais jeune. Nathalie Sarraute. J'ai adoré Nathalie Sarraute. On a beaucoup critiqué cette période du nouveau roman, etc.
Ah, c'était très intéressant.
Mais c'était quand même très intéressant. Il y avait des choses, je trouve,
oui,
intéressantes dedans. Tout n'est pas à jeter. Il y a eu peut-être eu des excès, etc. Des choses qui sont peut-être ennuyeuses. J'en sais rien, mais...
Beaucoup de recherches.
Comme ce mérite-là.
Nathalie Sarraute, Les fruits d'or, l'usage de la parole, ouais, merveilleux, ouais, usage de la parole. Et puis...
Enfance.
Le planétarium.
Le planétarium, il y avait un qui s'appelait Disent les imbéciles. Enfin, c'est
un des fragments aussi.
Des fragments, voilà.
Des fragments qui reviennent.
Tout ce qui se passe dans le silence.
Ouais.
Il y a beaucoup de silence dans et tous ces instants qu'elle essaye d'attraper. Ça m'a bien marqué.
À quoi ressemble votre bibliothèque à La Ouaro?
Ouf!
Est-ce que vous en avez plusieurs? Parce qu'il arrive qu'on ait plusieurs bibliothèques. Vous avez sans doute une discothèque avec vos...
Je ne suis pas collectionneur.
Non.
Donc, il n'y a pas vraiment de bibliothèque. Il y a des livres un peu partout. Un petit peu en désordre. Beaucoup en désordre.
Ouais, c'est... Il y a une bibliothèque poésie, pas classée du tout.
Non, c'est pas classé du tout. Il y a des piles de livres.
Et vos lieux d'écriture, ils sont différents? Vous écrivez dans les trains, vous écrivez, puisque il est question de train dans votre recueil de nouvelles.
Alors, une époque où je faisais beaucoup de voitures, j'écrivais en voiture.
Oula! Ça me fait peur, moi.
Non, mais j'écrivais...
Vous dictez, vous...
Mentalement. Je trouve que j'ai pas mal de mémoire. Et donc mentalement je retenais, ou bien je prenais, ça m'est arrivé, on va le dire très doucement, je le fais plus, c'est promis, de prendre des notes comme ça, mais
oui,
juste un mot.
Bon, voilà. C'est plus rassurant.
Plus rassurant.
Voilà ce que vous écrivez, je crois. La rencontre décidait de la réalité de mon existence, je ne décidais pas de la rencontre. Est-ce que c'est vraiment la rencontre aussi? C'est ainsi que va se terminer d'ailleurs notre émission. Notre échange, c'est la rencontre qui est le nœud. La rencontre avec soi-même, la rencontre avec un lieu.
Avec un lieu, exactement. Je veux dire, c'est pas uniquement avec des personnes, c'est avec un lieu, la rencontre avec le temps, la rencontre avec le passé, la rencontre avec...
Un parfum.
Un parfum, bien sûr. Un goût.
Un goût.
Je suis extrêmement... tout passe beaucoup par les sens.
Voilà. La rencontre avec un souvenir, forcément, et avec un moment de... Un moment qui passe avec l'éphémère, mais qui devient éternel aussi, qui devient une part éternelle. Alors demain, on peut vous retrouver à la Ouaro, il y a un salon. Alors, je le dis pour les auditeurs, demain au Palais de la Femme, 94 rue de Charonne, il y a le salon Loterie Livre, le rendez-vous incontournable de l'édition indépendante. Donc vous y serez l'après-midi, c'est ça?
Alors j'y serai à 14h, oui.
Au stand des éditions...
Au stand des éditions Unicité, bien
Unicité,
sûr.
Unicité, donc on pourra se faire dédicacer votre...
Bien sûr.
Voilà, au Palais de la Femme. Donc j'invite tous les auditeurs à venir vous rejoindre et à vous lire. Et à vous lire, et puis je vous encourage à poursuivre.
Merci beaucoup.
Ah, poursuivre la partition.
La partition, c'est...
Hein, la partition, alors à plusieurs voix, ou à une seule voix ou à...
Non, à plusieurs voix.
À plusieurs voix, faut, toujours.
Oui, la monodie, c'est bien, mais c'est bien quand il y a plusieurs voix.
Plusieurs voix. Je sais qu'il y a déjà je suppose qu'il y a des lecteurs qui vous font déjà des
oui,
retours.
Oui,
ça, vous aimez bien.
Ah, ça, j'adore. J'adore parce que c'est ce fameux écho dont on parlait tout à l'heure, et avec lequel on a parfois des surprises. Et chacun, finalement, quand il va lire un livre, chacun, il projette sa propre vie ou ses propres fantasmes. Et ça donne une nouvelle naissance, ça prolonge le livre, ça prolonge ses possibilités.
Est-ce qu'écrire,
ce champ des possibles.
Ouais. Est-ce qu'écrire, c'est aussi laisser la place au lecteur?
Bien sûr. Hein? Bien sûr, c'est le lecteur qui fait le livre après.
C'est le lecteur, c'est à lui de faire le livre. Merci à vous, Alain Ouaro.
Merci à vous.
Pour Cendrillon, c'est moi. C'est vous. Ce n'est pas encore moi, mais Cendrillon, c'est moi. Aux éditions Unicité, ça vient de paraître aux éditions Unicité. Très belle couverture, hein, vraiment, votre éditeur a fait avec un très beau papier, je trouve. C'est vraiment un bon livre et de chevet, on pourrait dire, qu'on peut lire... dans tout, passant par la fin, le début, comme on veut, c'est libre. Alors, je ne sais pas si on peut encore se le procurer. Le monologue du voisin Kafka aux éditions Jacques Flamand.
Non.
Donc ça, on ne peut plus.
Il n'y a plus d'exemplaires. Les quelques qui restent sont chez moi.
Ouais. Donc ça, c'est... on peut, par contre, se procurer aux éditions L'Arbatan. Vous aviez fait...
Oui, tout à fait. Tout ce qui est
alors,
poésie, oui.
Ça, 4 saisons plus une, lettres en vacances, à jour, prélude et fugue,
oui.
Le jour opéra et le son des jours. Oui. Voilà, ça fait quand même y a tout un... Et aussi Les gens heureux, qui était votre premier roman.
Exactement.
Voilà. Eh bien, sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous.
Merci.
C'était l'émission Bibliomanie, que vous pouvez podcaster sur le site de Radio Libertaire. Vous cliquez, vous téléchargez, vous le communiquez aux amis de vos amis. Je laisse là-dessus la parole à Flo Descailloux, qui va nous faire une annonce, je crois.
Oui, alors déjà... En arrière-fond sonore, j'avais mis les deux derniers titres que l'invité a joué. Et là, c'était une mazurka par Tarega, que je ne connais pas, mais c'était très joli. Voilà, vous avez quelque chose à dire sur Tarega, non? 30 secondes.
30 secondes, non, mais Tarega était un compositeur guitariste du 19e siècle, voilà, on l'a appelé le père de la guitare moderne.
Ah, bah voilà, bah c'est une belle découverte. Et là, j'ai une annonce à faire, effectivement, qui est beaucoup moins poétique. C'est ce soir, à 20h15, au Méliès, à Montreuil, à la mairie de Montreuil, il y a un film de Nicolas Bonneau, Elf, la pompe afrique, avec le jeu de mots entre le fric et le continent africain. Je crois que c'est un... C'est un film très important. Il a fait des pièces de théâtre qui étaient vraiment très, très bien. C'est passionnant et c'est militant en même temps. Et voilà, je conseille ça, 20h15 à Montreuil. Eh bien, il nous reste 3 minutes. Il n'y a pas d'émission après, j'ai l'impression. Un grand de la guitare, Baden-Powell, je ne sais pas si vous aimez. Et là, c'est son fils, Marcel Powell, qui aime bien venir à Radio Libertaire et quand il est en France. Berimbau par son père. Au revoir.
ville que jamais, sont partout cités en exemple.
L'autre jour, j'étais dans un bistrot, je buvais mon infusion de millepertuis, et un type dans un coin m'apostrophe, il me dit « Ah, Buller, toujours à gueuler, toujours compte, mais t'en as pas marre, non. Puis t'auras passé ta vie entière dans le camp des perdants, t'auras eu tort d'un bout à l'autre. » Moi, j'ai la première fois que j'ai manifesté, c'était contre la guerre que les Américains menaient. Pour ceux d'en face, on était des ennemis de l'Occident et de la démocratie. Coulez, qui oserait affirmer que cette guerre n'était pas le prix avait raison. Je me souviens d'un samedi après-midi à Kaiserhaugst, en banlieue de Bâle. C'était en pleine zone sismique, où là où devait être érigée une centrale nucléaire indispensable au pays. On était des milliers à dire non. On nous accusait d'être des traîtres à la patrie, de vouloir mettre à bas l'économie. Kaiserhaugst ne sait pas battre. J'ai témoigné ensuite au procès d'un ami objecteur de conscience. Pour ceux d'en face, il fallait punir sévèrement ces mauvais Suisses qui allaient livrer le pays aux hordes barbares. Aujourd'hui, conscience est admise. J'ai manifesté contre la guerre de Bush en Irak. J'ai manifesté à Davos au World Economic Forum pour dire que ce système économique est sans morale. J'ai chanté pour les 523 des requérants d'asile, des sans-papiers, que Blocher Trépignant voulait absolument mettre à la porte. Oui, fake me, dixième chef, Ricardo Schweitzer, fake me, tu le chais, c'est nous. Blocher est retourné à ses cloches de vache et à ses yodeleurs. Les 523 sont restés, le pays.